Jean-Pierre nous a parlé que demain nous sommes en congé. Le Seigneur nous offre le Saint-Esprit et en plus nous avons un jour de congé. J'ai un collègue que à chaque fois que c'est son anniversaire, il prend congé. Et je devrais prendre l'exemple de ce collègue. À chaque fois que c'est mon anniversaire, il faudrait que je prenne congé. Mais il faudrait que je prenne 3 jours de congé. Le jour de la Pentecôte qu'on reçoit, le jour de mon anniversaire, mais le jour que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans mon cœur. C'était au mois de novembre, ça tombe bien parce que mon anniversaire c'est le 10 novembre et le 22 novembre c'est le jour où le Seigneur est rentré dans ma vie. Ce serait bien d'avoir autant de congés. Mais Dieu nous donne l'éternité avec lui pour être en congé. Ce matin, je ne vais pas parler directement de la Pentecôte, mais plus indirectement. Vous allez voir dans le message, on en parle quand même. Je ne sais pas, vous les hommes, si vous êtes comme moi. Quand votre épouse vous dit, tu veux bien aller chercher telle ou telle chose dans l'armoire. Et vous lui répondez, on répond directement, oui chérie. On arrive à cette armoire, on l'ouvre et on commence à regarder à gauche, à droite, au-dessus, en bas. Et vous entendez votre épouse dire, ça y est ? Là, on se dit, dépêche-toi. Et on commence à regarder. Et vous entendez cette voix, il est juste devant toi, juste un petit peu à gauche, et tu vas le voir. Et là, tu regardes, et tu vois toujours pas. Et tu commences à transpirer, parce qu'elle commence encore à dire, « Ça y est !» Et on ne trouve pas. Et alors là, on entend les pas qu'elle arrive. Ça y est, c'est une panique. Et elle arrive, elle met sa main derrière ton épaule et elle prend la chose qu'elle a besoin. On croit voir tout, mais on ne voit rien du tout. Et je voudrais vraiment ce matin suivre ce message. Bien sûr, ça date, c'était le 4 février où on a parlé de cet homme aveugle de naissance dans Jean chapitre 9. Tout un chapitre qu'on nous parle de cet homme. Juste quelques petites paroles pour nous remettre dans le bain de cet homme. Cet homme était aveugle de naissance. Mais il n'était pas qu'aveugle, simplement, mais il était aussi mendiant. Ce n'est pas comme aujourd'hui, quand nous sommes invalides, nous recevons un salaire. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il doit faire la manche pour recevoir de l'argent. Et on avait vu aussi qu'il n'avait pas d'amis. Il était seul. Ses parents l'ont rejeté. Et quand il a été guéri, ce groupe pharisien, religieux de cette époque-là, on lui a posé plein de questions. Et ils ont commencé à le juger. Ils l'ont insulté, accusé. Et puis, ils l'ont mis dehors de la synagogue, rejeté. Et ce matin, on va lire ces quelques versets que ça termine ce chapitre 9. Et nous lirons les versets 35 à 41. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pourquoi ? C'est pour cela que votre péché subsiste. Voilà la lecture de ce matin. Jésus, lui, apprit que cet homme était chassé de la synagogue. Et Jésus va le trouver, en quelque sorte, il l'accueille. C'est une prophétie qui était bien écrite bien longtemps à l'avance. Dans Ésaïe, au chapitre 42, au verset 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, et je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en un terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. » Voilà que Jésus accomplit cette parole. Il ne l'abandonne pas. Et parfois, nous sommes comme cette personne. On ressent que nous sommes rejetés, peut-être par la société, par les amis, la famille, je dirais même l'Église. Mais Dieu, lui, ne nous abandonne pas. Et voilà que Jésus l'accueille, mais Jésus va lui poser une question qui est très importante. Pas que pour lui, mais tous ces gens qui étaient alentour de lui, et pour aujourd'hui, pour le monde entier. Jésus va lui poser cette question. Crois-tu au Fils de Dieu ? D'autres traductions, c'est « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et il répond, cet homme, « Qui est-il, Seigneur ?» Et ici, Seigneur, il faut bien comprendre, c'est « Monsieur, afin que je croie en lui. » C'est qui ce Fils de Dieu ? Mais aujourd'hui, on le sait, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, homme et en même temps Dieu, égal à Dieu, le Fils de Dieu, sur terre. Et croire, bien sûr, ici, ça veut dire, est-ce que tu veux mettre ta confiance en Jésus-Christ ? Est-ce que tu veux mettre ta confiance en Jésus-Christ ? Et l'ex-aveugle lui répondit, « C'est qui le Fils de Dieu ? Afin que je croie, afin que je mette ma confiance en lui. » Et Jésus lui dit au verset 37, « Tu l'as vu, c'est celui qui te parle, c'est lui. » Alors cet homme lui dit, « Je crois, je mets ma confiance en toi, Jésus. Je mets ma confiance en toi. » Alors ce matin, qu'une question. Et une question qui est très importante. Est-ce que tu as mis ta confiance dans le Fils de Dieu ? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu lui-même qui est venu sur cette terre pour te sauver ? C'est vrai que le terme « sauver », on entend souvent « sauver, sauver ». Mais sauver de quoi ? Sauver de tes péchés. C'est important, tes péchés. Parce que le péché, c'est la mort. Il vient te sauver de tes péchés. Cet homme avait reçu par Jésus-Christ la guérison. Il était aveugle de naissance. Voilà qu'il est guéri. Mais il n'est pas encore sauvé de ses péchés. Il n'avait fait qu'une expérience avec Jésus. Qu'une expérience avec Jésus. Et on voit beaucoup dans l'Évangile, dans les évangiles, et je pense à ces 10 lépreux dans Luc au chapitre 17. Tous les 10 sont guéris. Tous les 10 font une expérience avec Jésus. Mais un seul, une seule personne fait demi-tour et revient vers Jésus. Il fait demi-tour qui nous montre cette repentance, cette conversion qui vient vers Jésus. et il est sauvé de ses péchés. Je crois vraiment que nous pouvons faire une ou des expériences avec Jésus sans avoir jamais mis notre confiance en Jésus, sans jamais passer par cette nouvelle naissance, sans jamais passer par la repentance. C'est vivre une vie de danger. La dernière fois, j'ai parlé de ma maman, quand elle était sur cette terre, elle était gravement malade. Elle avait demandé à Dieu qu'elle puisse être guérie. Bien sûr, Dieu l'a fait à travers des médecins. Elle avait fait une expérience avec Jésus. Plus tard, elle a mis sa confiance en Jésus-Christ. Et c'est ça la chose la plus importante. Elle a mis sa confiance en Jésus-Christ. Et je pense vraiment, et ça me revient souvent, cette parabole du Seigneur. La parabole du semeur. Jésus raconte cette parabole à une foule entière. Et puis il va expliquer cette parabole à ses disciples. Elle est racontée dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Je trouve vraiment qu'elle est très importante, cette parabole. Pour nous, les disciples, pour qu'on puisse comprendre. Juste quelques paroles. La semence tomba dans quatre sols différents. Quatre personnes différentes. Quatre cœurs différents. Mais toujours la même semence qui est la parole de Dieu. Quatre personnes vont avoir une expérience avec Dieu. La première personne entend la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une expérience d'entendre la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une expérience? Mais elle nous dit, elle ne veut pas croire ce que Dieu dit. Et là, ça devient triste. Elle ne croit pas ce que Dieu dit. Voilà l'expérience qui se termine. La deuxième personne la reçoit avec joie. Combien de personnes j'ai vues qui la reçoivent avec joie? Oh, tout est super. Tout est merveilleux. Dès la première persécution, c'est vrai, nous ne sommes pas dans ces pays où on est persécuté, mais simplement des critiques. Il est dit qu'ils abandonnent. À cause de quoi? Pas de racines. Qui veut dire, en quelque sorte, mes frères et sœurs, y a-t-il eu une repentance? Y a-t-il eu une repentance en cette personne? La troisième personne, ils ne veulent pas renoncer à certaines choses de ce monde. Il est dit le plaisir, l'argent. Dieu n'est pas contre ça. Mais ce qui se passe, c'est que est-ce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ? Ou leur priorité, c'est ça? J'ai trop peur de perdre ces plaisirs et cet argent. Est-ce que tu as mis cette confiance? Est-ce que tu as passé ta repentance envers Jésus-Christ? Et la quatrième et la dernière personne, elle fait une expérience avec Jésus, mais elle passe par une repentance. Et dans Luc, il précise bien qu'il est dit avec un cœur bon et honnête. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, mais reconnaissent ce qui se passe dans leur cœur, qu'il n'y a que Dieu. Et dans Luc, toujours, nous dit qu'elle porte du fruit. Et généralement, le fruit, c'est le fruit de l'esprit. C'est ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. Voilà la Pentecôte. Ceux qui ont passé vraiment par une nouvelle naissance. une vraie repentance d'un cœur bon et honnête. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et ils veulent vivre que par l'Esprit. Et ça, c'est dans Galates, au chapitre 5, verset 22. Et la première chose qu'on voit, c'est l'amour. L'amour. Et je pense vraiment, on peut se tourner vers Dieu et voir quand Dieu dit à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde. C'est qui le monde ? Mais c'est chacun de nous. Et quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, on aime les uns les autres. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous pour aimer ce monde qui doit être sauvé par Jésus-Christ. La joie. Je ne vais pas rester dans tous ces points-là, mais juste les deux premiers. La joie. Parfois, il faut croire qu'on doit être toujours dans la joie. Oui. C'est pas ça dans la joie. La joie, c'est plutôt de savoir, comme l'apôtre Paul quand il était dans la prison. La joie de savoir que Jésus va revenir. Savoir que je vais auprès de Jésus. La joie de savoir que j'ai cette vie en moi, que personne ne peut la retirer. Une paix, une patience, une bonté, une bienveillance, une fidélité, une douceur, une maîtrise de moi. Une expérience qui passe par une repentance. Et Luc nous précise juste à la fin, il dit qu'il y a une persévérance. Une persévérance. Il faut persévérer. Mais pas dans le sens de persévérer pour recevoir la vie éternelle. C'est pas ça. Persévérer dans le sens que nous sommes, mes frères et sœurs, vous le savez, et nous le savons dans notre cœur, que nous sommes toujours des pécheurs. Et persévérer, c'est de toujours revenir à la croix. Combien de personnes, mon cœur est triste de voir qui s'en vont. Parce que, en quelque sorte, ils oublient de revenir à la croix. C'est ça l'ennemi qui nous fait croire là, que Dieu nous aime plus. Ben, tu l'as fait 50 fois, 100 fois, ne reviens plus, il ne va plus te pardonner. Persévérer, revenir à la croix et demander pardon. Et nous voyons la fidélité de Dieu. Et persévérer, nous voyons l'assurance que nous sommes justifiés. Justifié parce que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. En lui, j'ai mis ma confiance. Il m'a sauvé. Alors, est-ce que tu crois au Fils de Dieu ? Une question qui est très importante. Et ce n'est pas moi qui te la pose, mais c'est Dieu lui-même. Alors, pour tous ceux qui ont déjà dit oui, on voit que cet homme demande « Qui est-il ? Qui est-il concernant le Fils de Dieu ?» Il y a beaucoup de personnes qui sont alentour de nous, qui ne savent pas c'est qui Jésus. Peut-être dans cette église, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il ne faut pas être gêné. Et tous ceux qui ont dit oui, nous devons les expliquer qui est Jésus. Je me souviens, quand les enfants ils étaient plus jeunes, avec mon épouse, on jouait souvent à ce jeu « Qui est-ce » A-t-il des lunettes ? A-t-il des yeux bleus ? A-t-il une moustache ? Mes frères et sœurs, nous avons cette carte devant nous, qui est la parole de Dieu. Mais en plus, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pour leur expliquer c'est qui Jésus-Christ. Et Jésus va dire quelque chose de beau. Tu l'as vu à cet homme. Lui dit, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. Quand on va expliquer à ces personnes, automatiquement ils vont nous regarder. Ils vont nous regarder. Et je sais, que je ne suis pas parfait. Loin de là. Mais pourquoi pas cette semaine demander à Dieu, Seigneur, façonne-nous pour qu'on puisse te ressembler. Tu sais, Seigneur, mes défauts, mais aide-moi pour que les personnes qui sont là autour de moi voient Jésus-Christ. Pourquoi pas prier dans ce sens-là, cette semaine? Et nous voyons que cette personne, l'ex-aveugle, a dit à Jésus, « Je crois. Oui, je crois. Je mets ma confiance en toi, Jésus. » Et qu'est-ce qui fait cette personne? Il se prosterne devant Jésus. Mes frères et sœurs, voilà la vraie repentance. Voilà la nouvelle naissance. Avec un cœur bon et honnête. Cet homme n'adore pas le Seigneur avant de savoir que Jésus était le Fils de Dieu. Un simple juif savait qu'il faut adorer Dieu seul. Aujourd'hui, on adore tout, mais là, un simple juif savait qu'il fallait adorer Dieu seul. Il n'aurait jamais, jamais adoré un simple homme. Jamais. Et il adore non pour ce qu'il avait accompli, mais pour ce qu'il était. Et combien j'aime, bien sûr, les prières des uns des autres, mais souvent, Benoît, quand il entame sa prière, il dit, nous t'adorons, Dieu, parce que tu es un Dieu, le Dieu vrai. Mes frères et sœurs, quand nous croyons en lui, nous faisons que l'adorer. Parce qu'il est le Dieu, il est Dieu, mais aussi le Dieu sauveur. C'est pourquoi on vient à l'église le dimanche, parce que nous avons tous le même Seigneur et on vient l'adorer. Bien sûr, pas que le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Et dans le verset 39, Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ah, ces pharisiens qui étaient alentour de lui ont vu qu'il parlait d'eux. Alors les pharisiens disent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» C'est beau ce qu'ils disent. « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» En quelque sorte, ils disent, « Mais nous, on n'est pas aveugles, hein, Jésus. On n'est pas aveugles. » Je me souviens, et ça je l'ai déjà dit, quand j'étais plus jeune, je jouais au football. Et souvent, souvent, on me disait, « Gino, tu es qu'un personnel. » Hier, c'était le tournoi de mon gamin, et voilà que je rencontre un ex-joueur, et il dit à Mathieu, « Tu sais que ton papa, c'est un mauvais, mauvais perdant. » Tout le monde me disait, « Gino, tu es qu'un personnel. Tu fais jamais, jamais de passe. » C'est vrai que je voulais faire tout seul, tribler les personnes, ou soit shoter au goal. Et quand je perdais la balle, les autres me disaient, « Mais Gino, pourquoi tu ne m'as pas fait la passe? Ça fait 5 minutes que je te le demande. » Je n'étais pas croyant. Et ce que je répondais, je disais, « Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. » Ces pharisiens, effectivement, ils voyaient Jésus. Mais Jésus, quand il pose la question à cet aveugle, ce n'est pas rien qu'à cet aveugle, c'est toutes ces personnes qui sont alentour de Jésus. Crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de Dieu? Les pharisiens ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Dieu sur terre. Ils ne croyaient pas qu'il était le sauveur du monde. Alors le problème, c'est qu'ils voyaient Jésus, mais dans leur cœur, ils ne voulaient pas reconnaître qu'ils étaient aveugles. Dans leur cœur, ils ne voulaient pas reconnaître qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient besoin d'un sauveur pour leur péché. Je voyais les autres qui disaient « Passe-moi la balle, passe-moi la balle. » Mais je voulais le faire tout seul. Je devais reconnaître que j'étais un joueur personnel. Je devais reconnaître que j'étais aveugle dans mon cœur, impersonnel. Le cœur des pharisiens était le même. Ils croyaient savoir tout et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont aveugles dans leur péché, dans leur cœur. Être pécheur dans leur cœur. C'est pourquoi Jésus leur dit, votre péché subsiste. Votre péché subsiste. Vous êtes coupable de vos péchés. Vous êtes coupable de vos péchés. C'est la mort. C'est la mort. Conclusion. Jean parle tout un chapitre de cet homme aveugle de naissance. C'est important de nous rappeler tout ce chapitre pour nous-mêmes. Nous sommes tous, on le veuille ou on ne le veuille pas, aveugles dans notre cœur. Dès notre naissance, nous sommes tous pécheurs. Et nous avons besoin de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Lui dire, oui Jésus, j'ai confiance en toi, que tu es le sauveur du monde. Et on le fait comment? Comme cet homme, à genoux, pour passer dans cette nouvelle naissance. À genoux. Carson dit, l'homme doit se mettre à genoux. Soit il le fait ici sur cette terre pour confesser ses péchés. Soit il le fait l'au-delà. Mais là, c'est pour le jugement. Qui est la mort. Combien de fois je le dis à mes collègues qui me disent quand il y a une catastrophe sur la terre, où est ton Dieu quand il se passe quelque chose? Où est ton Dieu? Et je lui répète, sache que ces hommes vont se mettre un jour devant Dieu. Comme toi aussi, tu vas te mettre à genoux devant Dieu si tu ne le fais pas ici, sur terre. Où es-tu? Je lui dis souvent, où tu étais quand Dieu a créé le ciel et la terre? Où tu étais quand Dieu a placé toutes choses sur cette terre? L'homme un jour doit se mettre à genoux. Soit on le fait ici, soit on le fait l'au-delà, mais qui est la mort. Au début, je vous ai raconté avec ma femme, quand elle me dit, va chercher telle ou telle chose dans l'armoire. Il était bon quand j'ai ouvert cette armoire et que je ne vois pas où est telle et telle chose, de retourner en arrière et dire, ma petite chérie, je ne trouve pas. Il est bon de retourner vers Dieu et de dire, oui Dieu, je reconnais je suis aveugle. Je reconnais je suis pécheur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de mettre ma confiance en toi. Mes frères et sœurs, Il y a quelque chose qui se passe quand on fait ça. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début. Ésaïe 42, 16. Voilà ce qui se passe dans notre vie. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Effectivement, quand je me suis tourné vers Dieu, je ne connaissais pas ce chemin-là. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Jamais j'aurais cru qu'un jour je parlerais. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Magnifique. En quelques secondes, j'étais dans les ténèbres. J'ai demandé pardon. Je suis dans la lumière. Les endroits tortueux ont un terrain plat. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème. C'est faux, très faux. Mais c'est sur un terrain qui est sûr. Sûr. On pense à ce peuple de Dieu qui ils étaient sur le désert. Ça devait être vraiment difficile. Mais c'est comme aujourd'hui, c'est tellement difficile. Mais c'est un terrain sûr, mes frères et sœurs. C'est un terrain sûr. C'est bien cela que je ferai. Et je ne les abandonnerai pas. Il termine avec ça, qui veut dire l'assurance du salut. Je t'abandonne pas. Je t'abandonne pas. Parce que je suis avec toi. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pour te dire, voilà, c'est réglé, c'est fait. Mais il faut attendre, bien sûr, le retour du Seigneur Jésus. Si ce n'est pas le retour, c'est nous-mêmes qui partirons vers lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.